Radio Chablais, 23h. Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit. Radio Chablais, programme de nuit.
C'est chaud, c'est chaud.
Sur le grill.
La situation en Haïti, on le sait, est dramatique. On présentera justement un point de vue haïtien d'ici quelques instants. Des Chablaisiens ont décidé d'aider quelqu'un de leur famille, justement, qui se trouve en Haïti. Ils ont eux-mêmes, nos Chablaisiennes et Chablaisiens, besoin d'aide. Papillon Coaste, bonjour.
Bonjour.
Avec plaisir, vous nous avez contacté il y a quelques jours de cela parce que vous faites actuellement ce qu'on appelle un crowdfunding pour aider quelqu'un de votre famille qui se trouve là-bas. Expliquez-nous le contexte.
Ce crowdfunding, c'est pour aider ma nièce et sa famille qui sont en Haïti. Ma sœur et moi, on est nés en Haïti et on a grandi en Suisse. On a été adoptés, donc on a eu cette chance de pouvoir grandir dans cette magnifique région du Chablais. Et maintenant, la situation depuis plusieurs temps en Haïti est très compliquée. Et notre nièce et sa famille ont perdu leur maison. Ça fait déjà plusieurs mois, c'était en décembre dernier. À cause des gangsters, c'est eux qui font la loi dans la capitale. Et il se trouve qu'ils prennent les maisons et se servent à volonté, car il n'y a pas de gouvernement et de police en place. Et maintenant, on a fait un crowdfunding, donc on voudrait lever 10 000 francs pour pouvoir reconstruire une maison pour ma nièce. Donc ce serait une maison qui ne serait pas la capitale, mais plus dans le sud, car la situation est un petit peu plus apaisée et tranquille dans le sud de l'île.
Ouais, justement, vous nous rassurez, Papillon, en nous expliquant le but, c'est d'aider votre nièce et toute sa famille à pouvoir se reconstruire, reconstruire une maison, reconstruire une vie, mais pour l'instant, loin de Port-au-Prince, où la situation est chaotique.
Exactement, c'est ça. Là, ils sont chez des amis déjà dans le sud, mais ils ne peuvent pas rester indéfiniment. Donc on a décidé avec eux et notre famille en Suisse de faire un crowdfunding pour les aider.
Alors justement, comment on peut vous aider, Papillon Coaste, comment on trouve les références pour ce crowdfunding?
Alors c'est tout simple. Pour ça, il faut se rendre sur la plateforme We Make It, sur le site internet. Et dans la barre de recherche à droite, il faut marquer une maison en Haïti. Ça, c'est le nom de notre projet. Donc une fois que vous avez simplement tapez ce texte, une maison en Haïti, vous tombez sur notre projet et vous pouvez le soutenir. Donc on a différentes actions pour le soutenir, tous les dons sont les bienvenus et vous pouvez verser la somme que vous voulez. Et en contrepartie, bien sûr, on va vous tenir au courant du projet et vous informer par photo. Donc on aura notre famille, ma nièce en Haïti, qui vous tiendront au courant en prenant des photos, l'état d'avancement de la maison et du projet en général.
Donc on le rappelle, une maison en Haïti sur wemakeit.com, très facile à trouver, en plus tout est expliqué correctement. Papillon Coaste, merci beaucoup, on va retrouver un contact d'ici quelques instants que vous nous avez donné pour nous expliquer un peu plus en détail la situation en Haïti. Merci en tout cas et bravo, plein soutien à vous, il reste quelques jours pour soutenir ce projet, on se dépêche d'aller sur wemakeit.com, une maison en Haïti. Merci Papillon.
Merci à vous, bonne journée.
Sur le grill.
Et pour retrouver vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Sur le grill.
Des Chablaisiens qui veulent soutenir leur nièce qui vit toujours en Haïti, c'est le sujet qu'on traite ce matin, l'occasion de parler de tout ce qui se passe malheureusement dans ce pays ravagé qu'est Haïti. Une maison en Haïti sur wemakeit.com. Il vous reste encore quelques heures, quelques jours pour soutenir cette action. On a besoin de vous pour construire cette nouvelle maison pour cette famille dont une partie de la famille habite ici dans le Chablais. On parle justement d'Haïti avec Frisnel. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous-même, vous êtes ici à Bruxelles, là on vous appelle, vous parce que vous êtes bien au courant de la situation puisque vous êtes entre Haïti et l'Europe régulièrement. Expliquez-nous la situation actuellement à Haïti, Port-au-Prince et autres.
Effectivement, je m'appelle Frisnel Zarak et je vis à Bruxelles depuis presque 10 ans. Et depuis, j'ai fait l'aller-retour entre Haïti et Bruxelles. Je suis de près la situation. Récemment, on a fait une distribution de matériel scolaire aux gens qui sont déplacés grâce à l'aide de papillons et tout, de nos amis suisses. Et effectivement, la situation des Haïtiens, c'est très compliqué parce qu'en fait, ils ont fui la violence des gangs. Donc il y a beaucoup de déplacés. Les médias parlent de 100 000 déplacés. Les gens ont abandonné leur domicile. Ils n'arrivent pas à rentrer chez eux. Donc ce sont des femmes, ce sont des enfants qui sont en situation de viol. Donc vous pouvez imaginer des enfants, des femmes dans un pays où il n'y a pas d'électricité, dans un pays où il fait noir, dans un pays où il n'y a pas d'armée, dans un pays où il n'y a pas de policiers.
Ouais, donc, une situation vraiment dramatique, hein, on l'a dit. Oui. Le gouvernement qui n'existe plus, le concept de sécurité, que ce soit l'armée ou la police, vous l'avez dit, qui n'existe plus non plus. On a envie de soutenir ce projet dont on parlait avec Papillon tout à l'heure. Il faut rappeler aussi que justement, tout ce qu'on parle là, c'est principalement dans la capitale Port-au-Prince. Mais pour nous rassurer, si on soutient ce projet de la nièce de Papillon, c'est parce qu'elle va se déplacer dans une autre région où là, c'est encore à peu près viable, rassurez-nous quand même.
Mais c'est à peu près viable. La situation, c'est à Port-au-Prince. Donc les gens qui sont déplacés, ce sont des gens qui sont traumatisés. Donc qui ont besoin. En fait, quand les gens sont traumatisés, ils ont quand même besoin d'être en sécurité. Être en sécurité, c'est avoir un hébergement. Donc les gens ne peuvent pas continuer à être dans la rue comme ça. Il faut qu'ils soient en sécurité. Il faut qu'il y ait aussi, on va dire, des activités, des liens, des activités socio-culturelles, comme par exemple des activités sportives. Oui, bien sûr, les gens ils vont à Corail. Corail, c'est vraiment là où Papillon est né. C'est là où je suis né aussi. Donc voilà, je pense que c'est un endroit plutôt sécur.
Alors on refera un point bientôt avec vous pour un petit peu voir. On espère d'ailleurs vraiment que la situation évolue un jour positivement en Haïti. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites pour votre pays, on le rappelle, Haïti. Et bravo à toute l'équipe de Papillon, à la famille aussi. On rappelle le We Make It, donc WeMakeIt.com, une maison en Haïti, des Chablaisiens qui décident d'aider leur famille là-bas pour essayer, tant que faire se peut, de refaire leur vie. Merci d'avoir été avec nous.
Et merci, bravo aussi à Papillon et à Marie-Jo, en fait, pour tout ça, en fait.
À bientôt, bon courage.
À bientôt, au revoir.
C'est chaud. Sur le grill.
Radio Chablais, programme de nuit.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. On est descendu qu'un tout petit peu. On se trouve dans un endroit de recueillement, c'est pour ça que je parle doucement. Le nombril du monde, c'est toujours Colombé. Emmanuel, mon très cher guide, où est-ce qu'on se trouve ?
Alors, on se trouve dans la crypte du monastère de Colombé. Alors, étant gamin, j'avais été à l'école ici, et puis on était très curieux, puis on est toujours guigné, parce qu'on disait qu'il y avait un gisant dans la crypte. Et puis, jamais t'étais non plus loin au niveau historique et tout. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Sœur Gilberte qui va pouvoir nous renseigner. Alors, je passe la parole à Sœur Gilberte.
Sœur Gilberte, bonjour, merci de nous accueillir ici.
Bonjour. Oui, alors, on se trouve dans la crypte du monastère de Colombé. Et c'est un beau lieu, un lieu frais que nous aimons fréquenter l'été.
Sans blague, c'est vrai qu'il est très frais.
Il est très frais. Et dans ce lieu, donc les sœurs, ils sont au monastère de Colombé depuis 1647 et ce fut le premier lieu de sépulture des sœurs ici. Et puis les sépultures ont été transférées au cimetière du monastère, il y a même plus d'une cinquantaine d'années. Et maintenant, c'est une petite chapelle qui est sous la grande chapelle du monastère. Et qu'est-ce qu'il faut vous dire? Nous avons les ossements de notre réformatrice Louise de Ballon, dont faisait allusion Emmanuel tout à l'heure, voilà. Donc, mais ce n'est pas le corps, il y a seulement quelques os, et le corps a été reconstitué avec les membres en cire et l'habit religieux.
D'accord, donc c'est ça en fait, c'est ce que vous veniez voir ici en étant gamin, ce qui suscitait votre curiosité.
Voilà, on reste à l'extérieur, puis on est dans Guigné, ça pendant la création. Mais toujours avec la curiosité, bon, on ne savait pas ce que c'était, quoi.
Naturellement, la curiosité d'un enfant, et en même temps, on revient à la pierre, parce que monsieur Gollet, ici présent, est un amoureux du caillou d'ici, de Colombé. Et là, on a construit en fait ce monastère sur un rocher.
Oui, le monastère est vraiment construit sur la pierre. Il y a très peu de fondements, à part une cave, mais c'est vraiment construit sur le rocher.
Et on, là, il est apparent. Donc on a une toute petite voûte qui monte à quoi ? 2 mètres, 2 mètres 50 même pas ?
2 mètres, oui, oui.
Et puis, sur la, on a l'hôtel en face de nous, et à gauche de l'hôtel, là, on voit vraiment le rocher sur lequel
oui,
est bâti.
Oui, tout à fait. Et puis, je voudrais juste alors, préciser que cette chapelle est construite, a été construite, a été réaménagée et consacrée à Notre-Dame de la Paix. Donc, une Notre-Dame qu'il faut prier ses temps, alors que le monde est si bouleversé. Alors, je voulais juste dire que nous avons cette intention, pourtant, dans cette intention de la paix dans le monde.
Eh ben, c'est pas la plus mauvaise des intentions. Bien au contraire, effectivement, Sœur Gilberte, j'ose m'approcher de l'hôtel ?
Bien sûr.
Et l'hôtel, qui est fait en marbre de Colombey, c'est-à-dire en calcaire.
Oui, en calcaire de Colombey. Oui, comme les grands escaliers qui montent à la chapelle.
Voilà, bon, on y revient toujours.
Et bien sûr, cette rencontre, vous la retrouvez en podcast sur radiochablais.ch.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais.
Ce matin, tu t'es réveillé, tu t'es dirigé vers la salle de bain et d'un geste machinal, tu prends ta brosse à dents, sans même y penser, tu ouvres le tube dentifrice et tu mets du dentifrice sur ta brosse à dents. Mais avant de commencer à te laver les dents, tu allumes le robinet ou pas ? Est-ce que tu humidifies ta brosse ou pas ? Et en fait, ça dépend des personnes. Certains la mouillent avant de mettre le dentifrice. Quant à d'autres, en fait, ils mettent d'abord le dentifrice, puis après, ils la mouillent. Mais la question fait débat, semblerait-il. Est-ce qu'il faut ou pas mouiller sa brosse à dents ? Alors, selon mon dentiste, il ne faut pas mouiller sa brosse à dents avant de se laver les dents, parce que ça assouplit trop les poils et que le brossage ne sera plus aussi efficace que s'il était bien sec. Bon, après, il n'y a pas vraiment d'études, semblerait-il, qui corroborent cette explication. T'as d'autres spécialistes qui vont te conseiller de mouiller la brosse à dents avant de mettre le dentifrice, pour avoir une bonne hygiène dentaire et pour avoir une bonne haleine. Alors franchement, j'ai envie de vous dire qu'on s'entend un peu, mais en gros, on ne sait pas vraiment ce qui est... Voilà, il faut mouiller, il ne faut pas mouiller. Donc du coup, faites-le selon votre envie, tout simplement. Et j'ai aussi entendu dire qu'il est préférable alors de pas mouiller sa brosse à dents avant de mettre le dentifrice pour pratiquer un brossage plus efficace. Et voilà quoi, c'est pourquoi pas. Mais que la salive en fait, elle est suffisante pour humidifier la brosse à dents. Voilà. Je sais pas. Franchement, on n'a pas de réponse. C'est des grandes questions qui nous traversent. Mais certains dentistes disent une chose, d'autres disent autre chose. Donc en fait, faites comme vous avez envie. Le but, c'est quand même de se laver les dents si vous avez mangé. Par contre, une fois le brossage terminé, il faut bien rincer la brosse à dents, ça c'est sûr, pour éviter qu'elle soit toute sale. Et puis il faut la garder, semblerait-il, tête en l'air pour qu'elle sèche correctement sans qu'elle développe des bactéries. Il faut éviter de la coller contre les autres. Maintenant vous saviez peut-être tout sur la brosse à dents sans vraiment savoir vu qu'on n'a pas vraiment de réponse. En tout cas, ce qu'il faut vous dire, c'est que cette question, elle divise, mais en même temps, c'est pas très important. Par contre, après le brossage des dents, là, il y a une chose qui est certaine, il faudrait pas se rincer la bouche, parce qu'il semblerait que comme dans le dentifrice, il y a du fluor, il faudrait le garder quelque temps dans la bouche pour renforcer l'émail. Alors que si on se rince tout de suite la bouche, ça stoppe en fait l'effet de ce fluor. C'est la seule chose que je peux vous garantir. Quant à la question initiale, pas de réponse, faites comme bon vous semble.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais. Programme de nuit.
Les bons plans.
Ouh. Sur Radio Chablais.
Ah, voilà.
On parle du Tour du Chablais avec Yvan Vuillameau. Salut Yvan.
Salut.
Alors aujourd'hui, ça va piquer un peu plus. On est à Morgin et ça risque de grimper quelque peu.
Ça va piquer un tout petit peu plus, en effet. Donc la semaine dernière, on était à B. Et cette fois, à Morgin, il y aura 1 km de moins à parcourir, 7 500 km. Avec, par contre, 50 mètres de dénivelé ou plus. Donc à peu près 250 mètres de dénivelé. Toujours un départ à 19h. Pour les adultes, ce sera un deuxième entraînement vallonné, on va dire, avec des parcours assez connus sur Morgin, avec le traditionnel tour du petit lac au pas de Morgin, et puis après on redescendra à travers les maisons pour finir au centre sportif.
Monsieur est un connaisseur.
Je l'ai couru quelques fois, en effet, pas toujours sur le beau temps, mais voilà, on touche du bois pour toutes les étapes.
On est bien d'accord, et là c'est le BBC 3 Torrents qui nous a concocté ce parcours.
C'est ça, c'est une nouvelle société qui se lance dans l'organisation. On a fait 3 ski clubs, c'était le moment de changer. Donc on est passé au basket, sportif au salle, mais je pense qu'ils seront tout à fait aptes à nous organiser une très belle étape.
Et si ça se trouve, ils vont peut-être même courir avec vous.
J'ai déjà reçu des demandes du club pour inscrire des écoliers. Donc, il y en aura bien quelques-uns qui vont courir du BBC, en effet.
Ouais, et là, bah, comme d'hab, il y a les mini, il y a les écoliers, il y a les adultes.
C'est ça. Pour les écoliers, ce sera 3,5 km avec 60 mètres de dénivelé. Et les mini, ben eux, ce sera 1 km. Il y a quand même un petit peu de montée parce que Morgin, c'est pas tout plat. Donc, il y a juste 20 mètres de dénivelé. Donc, ça va aller.
Ça va aller. Ben, merci. La semaine prochaine, on retourne en plaine. C'est à Aigle que nous allons pouvoir tester le Tour du Chablais.
C'est ça. À la semaine prochaine.
Les bons plans
sur Radio Chablais.
Ah, voilà, voilà.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
En large.
Plan. Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Bonjour Vincent Bailly.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'AVO Patrimoine Mondial, cette association qui protège hein, comme un trésor ce site de l'AVO et son inscription au patrimoine de l'UNESCO. Alors, d'habitude, je commence les entretiens par pourquoi on est là. On est au cœur de l'AVO, c'est normal, on est dans les bâtiments de l'association. Il faut dire, on n'a pas de bol, hein, c'est le jour... cette émission est enregistrée le pire jour de ce début de printemps. Il fait moche, il fait froid, il pleut, c'est pas terrible.
Oui, c'est vrai. Donc vous êtes dans la maison de la Fondation Butin de l'ES, qui est donc une maison du XVIe siècle, qui est elle aussi inscrite à l'inventaire fédéral des bâtiments d'importance. Et on a la chance d'être locataire de cet espace. Et c'est une grande chance parce que la maison est absolument incroyable. On est au cœur du patrimoine, dans un site patrimonial. Donc il y a une vraie cohérence à y être. Quant à la météo, ben oui, des fois, on parle tout le temps des trois soleils de l'AVO. Ben aujourd'hui, il n'y en a aucun. Oui, ça fait partie.
On va en parler de ces trois soleils. Hein.
Mais voilà.
Vous, un peu d'abord, Vincent Bailly, vous avez pris la tête de cette association il y a 3 ans. Et avant ça, plein d'expériences, notamment dans le tourisme. Et j'ai vu à Chablais Agglo.
Alors, pas directement à Chablais Agglo, mais c'est un partenaire avec lequel on a travaillé. Alors, j'ai fait mon travail de master en géographie à l'Université de Lausanne sur l'agglomération Montaigle, effectivement, qui était un sujet qui m'intéressait particulièrement parce que c'est un territoire qui n'est pas de facto compréhensible comme une agglomération en tant que telle. Et le sujet a été très intéressant. Donc, j'ai fait à l'université la géographie, le journalisme et des statistiques appliquées aux sciences humaines.
Bon, vous avez bien connu, vous avez dû aller dans le Chablais, du coup.
Oui, alors pour l'occasion, je l'ai parcouru de long en large et en travers pour effectivement bien connaître un petit peu son articulation.
Quand on vit et qu'on défend un site vitivini comme l'AVO, on va regarder un peu ce que font les copains dans les autres domaines du canton et même au-delà.
On va toujours regarder autre part et dans toute la diversité des vignobles, que ce soit des sites extrêmement protégés comme d'autres vignobles inscrits sur la liste du patrimoine mondial.
C'est le cas de la Bourgogne par exemple.
C'est le cas de la Bourgogne. On a également été à Bordeaux, il y a la juridiction de Saint-Émilion qui est également inscrite. On est en contact aussi avec le Haut-Douro, on est en contact avec d'autres vignobles internationaux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas du tout aux autres vignobles vaudois et suisses qui sont des partenaires. J'ai toujours le plaisir de rappeler que le patrimoine vitivinicole, il n'est pas uniquement lié à une inscription au patrimoine mondial, il est dans l'ADN en Suisse. Et c'est quelque chose qu'on doit mieux faire connaître encore.
Bon, ce vignoble, hein, incroyable. Alors, on va pas faire un cours d'histoire, mais quand même un clin d'œil. C'est les moines, hein, c'est les moines. Alors, il y a une phrase de. On va d'abord commencer par ça. Il y a une phrase de Chapa, hein, non, pas de Chapa. Qu'est-ce que je raconte? Il y a une phrase qui dit que c'est Dieu qui a fait
le
veau. C'est Ramu, voilà. Ouais. Louis Ferdinand Ramu qui a fait cette phrase merveilleuse. Vous allez me la citer parce que vous la savez certainement par cœur.
Bah, Dieu a fait la pente. Voilà. Et nous, on a fait qu'elle serve, on a fait qu'elle tienne, on a fait qu'elle dure. Et effectivement, c'est une phrase qu'on utilise encore beaucoup parce qu'il est rare de pouvoir résumer aussi facilement ce que représente le vignoble de l'AVO. C'est un paysage naturel avant tout, le fruit du travail du glacier du Rhône qui s'y établit.
On appelait Dieu à l'époque.
C'est la version glaciale de Dieu, effectivement. Et ensuite, toute la partie culturelle et vivante qui a émergé par le travail des hommes et effectivement des moines au tout début, puis ensuite des grands hommes domaine viticole principalement de la ville de Lausanne, puis également du canton de Fribourg avec les Faverges. Et gentiment, s'est créé cette colonne vertébrale des vignerons en caveur à Lavaux qui font réellement partie de l'ADN du site.
Alors, ce site en terrasse, hein, là, pour le coup, c'est vraiment le travail de l'homme. La pente est parfois très rude. Il y a du 100% d'ailleurs à certains endroits, il y a de la falaise. Hein.
Exactement.
Alors là, il n'y a pas de vigne, évidemment, mais il y a du 45%. Mm-hmm. C'est assez.
Non, 100% assez des allées, c'est sûr. Ils sont attestés, donc il n'y a pas de problème. Que ce soit sur la périphérie du vignoble, quand on est sur des pentes comme à Villette ou sur certains pans à Saint-Saphorin, on est un peu moins en pente, mais en des allées, on est clairement à 100%. Et effectivement, c'est 10 000 terrasses, c'est 450 km de murs patrimoniaux. On parle assez volontiers de la forteresse de Lavaux. Si vous promenez sur la route du lac entre Cuy et Riva, par exemple, et que vous regardez sur le haut, vous voyez plus de murs que de vignes. Mmh. Et ça, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant de se dire, oui, c'est d'abord une construction avant d'être un espace naturel.
Bon, le travail des hommes et des femmes, le travail du temps, hein, avec les moines au départ, c'est le cas aussi d'ailleurs de certains vignobles du Chablais, hein, mmh. Les mêmes d'ailleurs, je crois, hein, à Yvorne notamment. Ouais. Et il y a cette histoire-là, c'est l'histoire longue, il y a l'histoire plus récente, c'est cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'elle signifie? Comment ça s'est fait déjà?
Ben, ça s'est fait par des idées, une envie de mieux faire reconnaître ce vignoble. Il faut savoir que la reconnaissance de Lavaux, elle date d'avant l'inscription. Hein. Le site est inscrit sur l'inventaire fédéral des paysages, monuments et monuments suisses, donc depuis 1977. Donc ça fait plus de 50 ans maintenant que le site est réellement inscrit sur un inventaire d'importance. Par contre, vous connaissez sûrement, il y a eu un certain nombre de démarches qui ont été prises par des particuliers pour préserver le site.
Par des votations populaires.
Donc, il y a eu Sauver Lavaux qui s'est activé à faire trois initiatives, puis le dernier, le contre-projet en 2014, qui a amené justement à débloquer ce qu'on découvre ces derniers temps, le PAC, là, donc ce plan d'affectation cantonale qui est la dernière strate de protection à l'heure actuelle du site. Entre-temps, effectivement, il y a eu l'inscription du site sur le patrimoine, au patrimoine mondial. Là, c'est plutôt des hommes qui se sont mis autour de la table en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a un site extraordinaire, il mérite d'avoir une reconnaissance à l'international. Et donc, l'inscription du site sur le patrimoine mondial a été portée principalement par trois personnes, messieurs Bovy, Dresco et Valoton, qui se sont attachés à monter un dossier d'abord pour placer le site sur la liste indicative qui est portée par l'Office de la Culture, puis ensuite l'Office de la Culture analyse les différentes propositions et a décidé de soutenir celle de Lavaux. Un dossier de candidature a donc été monté et déposé en 2016 à l'UNESCO.
Ouais, on va pas aller dans le détail des choses, mais on voit que c'est la même chose maintenant avec tous les dossiers du patrimoine immatériel. Hein. Ça passe par le pays et c'est ensuite le pays qui propose aux Nations Unies et donc à cette agence l'UNESCO. Bon, y a quelque chose, y a une phrase qui me marque dans cette affaire de patrimoine mondial et de cette inscription à l'UNESCO, c'est on n'est pas protégé parce que c'est beau. C'est pas l'esthétique qui compte, parce que l'esthétique c'est subjectif, hein. C'est un truc
exactement.
Qui peut être beau pour quelqu'un, peut pas l'être pour quelqu'un d'autre, pour une autre culture, etc. C'est pas ça. C'est quoi?
C'est pas ça. Effectivement, c'est un des enjeux et une chance, c'est que Lavaux est magnifique, mais l'esthétique, enfin l'inscription d'un site au patrimoine mondial s'appuie sur ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle de ce site. C'est donc des caractéristiques qui transcendent les profils sociodémographiques, les origines, les attentes et les lectures des personnes. Et enfin, en fin de compte, il y a un certain nombre de critères qui ont été identifiés, de valeur, donc cette valeur universelle, et l'esthétique n'y figure pas. Ce qui y figure, par contre, effectivement, c'est l'élément structurant le vignoble. C'est un vignoble, l'un des plus grands de Suisse, d'un seul tenant. Donc cette continuité du vignoble qui s'étend de la Lutrive, donc sur Lutry, jusqu'à la Veuvaise en tant que telle. Ensuite, il y a la partie patrimoine bâti, ces villages, ces hameaux, ces bourgs qui se sont accrochés dans le vignoble pour en garantir une exploitation sur séculaire. On a également tout ce qui est lié à la pratique de la vitiviniculture, c'est-à-dire cette approche, cette ingéniosité des vignerons et vignerons au travers des siècles pour s'approprier un versant très complexe, difficile, en pente, comme on le mentionnait précédemment. Et puis, évidemment, il y a encore l'adhésion populaire qui a été reconnue par l'UNESCO comme étant remarquable, c'est-à-dire ce soutien de la population vaudoise, et pas uniquement du périmètre, à préserver ce site que tout un chacun considère comme exceptionnel.
Bon, soutien qu'on peut, grâce à notre système démocratique, hein, qu'on peut estampiller par des résultats de votation. C'est, sûr, ben c'est sûrement pas le cas pour tous les dossiers UNESCO.
Non. Et puis, il faut aussi rappeler que Lavaux est un des seuls sites, voire le seul, qui figure dans la Constitution vaudoise, nommément. C'est aussi une marque quand même très importante de l'attachement et de la volonté de protéger ce site.
Bon, pour autant, on verra dans la deuxième partie que les défis restent. Hein. C'est pas parce qu'il y a le souhait de protéger que les dangers ne sont pas là à guetter. Les autres sites de l'UNESCO, vous avez cité à Bordeaux, il y a en Portugal, je crois aussi, un site qui est et il y a probablement d'autres. Cette culture du vin, pourquoi, à ma connaissance, il n'y a pas de grande brasserie de bière qui est au patrimoine de l'UNESCO. Peut-être je me trompe, c'est possible.
Alors il y a 1200 sites qui sont inscrits, donc difficile pour moi de
mais
pouvoir...
Mais il y a la culture du vin quand même qui est particulière.
Parce que au-delà de la pratique agricole de faire pousser du raisin, le vin a deux composantes très particulières. La première, elle est économique. Le vin a été rapidement un produit de grande qualité et qui a amené une retombée économique majeure. Cette retombée économique majeure, à Lavaux et dans la région, elle est également reconnue dans la valeur universelle exceptionnelle. C'est pour ça qu'on a à Lavaux des châteaux, des tours, des éléments architecturaux qui étaient là également pour protéger ce patrimoine et cette valeur économique.
Il fallait protéger le vignoble.
Et oui, et c'est le cas dans plein d'autres vignobles, en Europe principalement, qui sont notamment inscrits également sur la liste. Et donc, il y a cette valeur économique du vin. Et le deuxième élément, c'est que les vignobles inscrits ont tous néanmoins une architecture, une structure, une organisation du paysage très particulière qui en font des sites tout à fait exceptionnels.
Les autres sites inscrits au patrimoine, ceux qu'on a cités, du vin, vous les connaissez évidemment, vous les visitez, ils viennent chez vous, les défis sont un peu les mêmes, le combat entre la modernité, la nécessité économique, le patrimoine, etc. C'est un peu partout pareil.
Alors, chaque site a réellement des spécificités, mais en tout cas, beaucoup de vignobles en terrasse, beaucoup de vignobles tout court inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont des sites, des paysages culturels, c'est-à-dire vraiment cette appropriation de l'homme d'un espace naturel présent. Et cette préservation de l'aspect culturel est un enjeu pour tous les sites. Le deuxième élément qui est assez commun, c'est que beaucoup de ces sites sont... la pratique de la viticulture est compliquée. Elle est chère, elle est pénible, elle est souvent aussi peu mécanisée, surtout pour les vignobles en terrasse, qui est le cas pour beaucoup de vignobles inscrits sur la liste. Et dès lors, il est parfois difficile pour ces sites et ces vignobles de valoriser... dans la vente du vin, le produit en tant que tel. Et là, pour l'occasion, on a des rapprochements, on a des réflexions qui sont menées avec des vignobles d'exception tels que les climats de Bourgogne qui ont aussi des enjeux sur la valorisation des vins issus de ces territoires et de ces terroirs très particuliers.
Qui ont des pentes parfois moins pentues, pour ce que j'en connais en tout cas, mais aussi des toutes petites parcelles avec des murs autour, etc.
Et puis la structure de la viticulture, c'est-à-dire que même si on s'appuie sur des surfaces qui sont parfois plus grandes comme les climats de Bourgogne, on a aussi toute une pyramide d'acteurs qui produisent du raisin, qui transforme cela en vin, et tous n'ont pas forcément la notoriété des clos et châteaux ou des choses comme ça, qui ont des notoriétés internationales majeures, mais derrière, il y a encore des milliers de personnes qui travaillent dans cette filière-là, qui doivent également vivre de leur
tourisme,
activité économique.
Ça crée tout un tissu économique autour, qui va de l'hôtellerie à toutes sortes de choses.
Mais même au niveau de la viticulture, les petits vignerons, même si leurs surfaces en France sont bien plus grandes que celles à Lavaux, leurs enjeux de concurrence à l'interne des périmètres et de positionnement de leur propre vin face à une concurrence accrue et face à la diminution de la consommation malgré tout rend les vignobles inscrits sur la liste du patrimoine très proches les uns des autres en termes d'enjeux positionnels. J'ai toujours le plaisir de dire, on s'attache souvent au contenu et au contenant de la bouteille, là où les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial ont un enjeu majeur, c'est de travailler sur le contexte. rappeler le contexte. À Lavaux, on ne fait pas du vin comme dans des vignobles plats, mécanisés ou ailleurs. On est sur un vignoble en terrasse, la pente, la pénibilité, l'absence de mécanisation rend la production très compliquée et onéreuse.
Bon, c'est cette complexité qu'on va aborder dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.
Radio Chablais, programme de nuit.
Blanc, large.
Jusqu'à
13h. Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà Vincent Bailly, on se retrouve pour parler de ce fabuleux joyau, hein, ce site de Lavaux. On va pas faire l'insulte de dire qu'il faut pas dire le Lavaux, hein. Ça c'est clair pour tout le monde.
Non, c'est
la région,
évidemment clair pour tout le monde. Oui. On dit à Lavaux ou en Lavaux, mais jamais dans le Lavaux.
Voilà, ça veut dire la vallée, hein, Lavaux.
Exactement.
Voilà. Bon, alors on parlait des complexités, des difficultés. Ça, ce sont une partie de vos défis et celui des vignerons, des gens qui travaillent, hein, sur ce site. Tout récemment, le Grand Conseil vaudois a dû discuter une énième fois des défis de cette profession. Il en est sorti que certains murs pourraient être détruits. Quelle est la position de l'association Lavaux Patrimoine sur cette décision démocratique ?
Alors, les murs, c'est un enjeu majeur, comme je l'ai mentionné précédemment.
Je précise juste, murs détruits pour pouvoir permettre une certaine mécanisation sur certaines parcelles.
C'est exactement ça. L'enjeu, on ne peut pas faire du binaire à Lavaux. C'est pas ou bien ou pas bien. L'association a été entendue par la commission parlementaire pour donner son avis sur ce point-là, et le voici. À l'heure actuelle, il est nécessaire que les vignerons et vigneronnes à Lavaux puissent travailler dans des conditions optimum qui leur garantissent justement un accès à leur parcelle particulière. Donc l'association n'est pas opposée à la destruction des murs, absolument pas. Parce que certains murs, effectivement, sont certes témoins de pratiques ancestrales ou autres, mais tous n'ont pas une valeur patrimoniale. Ce qui nous importe, nous, le plus important, c'est de nous assurer que les personnes qui vont définir ou décider quel mur peut être détruit le fassent sur une lecture patrimonial, économique, enfin une lecture plurielle de ce que représente ce mur-là. Et ça, c'est le plus important. Donc, on travaille main dans la main avec les vignerons pour s'attacher à maintenir cette vitiviniculture à Lavaux, la rendre, ou la maintenir durable mais rentable, c'est très important. S'il y a plus de vignerons à Lavaux, il n'y a plus d'inscription du site sur patrimoine mondial.
C'est fait fascinant de voir que par beau temps comme par mauvais temps, quand il y a des décisions qui nous plaisent ou qui nous plaisent moins, la cohérence du discours entre la vie économique qui doit être réaliste et le patrimoine, c'est votre souci constant, c'est votre quotidien.
Oui, sachant qu'il faut se rappeler, c'est un paysage culturel vivant. Si on nommait le vivant, le vigneron ou la vigneronne à Lavaux, on perd le maintien du patrimoine minéral ou structurel que représentent les murs et les terrasses.
C'est pas une carte postale, c'est des gens qui travaillent sur une carte postale.
Les murs à Lavaux, sur 450 km, il y en a qui tombent chaque année. Cette année, un peu plus que d'habitude. Si les vignerons n'ont pas la capacité financière de remonter ces murs, c'est une atteinte directe au patrimoine de manière générale. Donc, il faut s'assurer que les vignerons soient soutenus, accompagnés et puis que puissent continuer à préserver ce patrimoine. C'est ça qui est important. Maintenir un mur pour maintenir un mur ne sert à rien si le maintien de ce mur fait disparaître un vigneron pour des enjeux économiques.
Ça, c'est quelque chose que le grand public n'a pas forcément en tête, hein. On voit, encore une fois, la carte postale. Ces murs, ils sont là. Mais comme vous dites, hein, le gel, les intempéries, la pluie, le soleil, ça tombe. Et c'est les vignerons, c'est les propriétaires des parcelles qui payent pour refaire ça. Alors aujourd'hui, on a des hélicoptères peut-être pour aider, pour amener les cailloux, je sais pas, ça coûte cher en tout cas de maintenir ce réseau incroyable de murs.
C'est ça, c'est toujours la lecture qui doit être faite du site. Au-delà de l'esthétique dont on parlait avant, le vignoble, c'est un élément construit. Et cet élément construit, pour qu'il le reste, il doit être entretenu en permanence. Et ceux qui s'attachent à le faire, ce sont les vignerons. Évidemment, ils sont soutenus, les communes sont présentes, le canton est présent, la confédération l'est aussi. Mais néanmoins, la personne qui travaille ce mur et l'entretien, c'est la personne qui est dans le terrain, c'est le vigneron. Et donc, c'est un des enjeux majeurs qu'on a au niveau de l'association, c'est de mettre en place des procédures et des sources de financement pour garantir le maintien de ces éléments structurels pour le patrimoine, mais aussi pour surtout pour maintenir l'activité économique dans le site.
Et agricole, il y a quelque chose aussi qu'il faut souligner. Hein. Ça vient en deuxième plan de ce que vous dites, c'est que ces coûts supplémentaires là liés au fait qu'on peut pas mécaniser ou qu'on peut pas mécaniser à grande échelle, ce qui est le cas de plein d'autres vignobles en Suisse, hein, les murs, etc. Bah, tout ça peut pas se répercuter que dans le prix de la bouteille, parce qu'on a déjà un problème global en Suisse qui est qu'on produit trop cher par rapport aux vins étrangers. Là, les vins de la vôtre sont inabordables.
Je suis pas 100% d'accord avec le fait qu'on vend des vins trop chers en Suisse. Je suis par contre certain qu'on a une marge de progression phénoménale sur la manière dont on raconte les vins aux consommateurs suisses.
Je dis pas qu'il faut les vendre moins chers. Je dis juste qu'il y en a des beaucoup moins chers qui arrivent sur nos marchés. Il y a pas de protectionnisme ou pas assez.
C'est vrai, mais on sait aussi que le Suisse a un attachement au terroir, un attachement à son agriculture et est sensible aux bons arguments. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit continuer à travailler spécifiquement avec les organismes de promotion, l'Office des vins vaudois ou Swiss Wine Promotion à l'échelle nationale, c'est rappeler qu'à l'heure actuelle, le maintien de ces paysages est essentiel. Et c'est quelque chose qu'on travaille également dans le cadre d'un partenariat que l'association a de longue date avec l'Université de Lausanne. On est en train de travailler justement sur cette réflexion de qu'est-ce qu'apporte les paysages et qu'est-ce qu'apporte l'AVO pour les populations. Et ça, c'est, et je vous donne un petit exemple simple. En période Covid, tout le monde était confiné. À partir du moment où le confinement a été allégé et que les personnes ont pu ressortir, on a eu un flux phénoménal de personnes qui sont venues à l'AVO pour s'évader, reprendre de l'air, souffle, quitter ce milieu un peu anxiogène et claustrophobe que représentaient les agglomérations.
Ouais. Avec les problèmes que ça comporte, c'est aussi la cohabitation entre un milieu urbain qui voit l'AVO comme une zone de loisirs, de promenade, alors que c'est une zone d'activité économique.
C'est exactement ça.
On peut pas faire un pique-nique au milieu des vignes, ça
non,
va pas.
Ne serait-ce que par le respect de la propriété privée. Donc il y a des comportements à adopter dans le vignoble en terrasse de l'AVO, qui est un site protégé, qui est un site qui donne l'impression d'être très ouvert, mais qui ne l'est pas tant que ça, parce que l'activité viticole se fait dans des parcelles privées fermées. Les routes carrossables sont libres de circulation. Par contre, tous les chemins de vigne, qu'on appelle chemins vicinaux, sont interdits à la circulation en vélo. Mais par contre, les piétons peuvent y passer. Donc, c'est aussi une lecture du site. C'est pas un espace de loisirs. Ouais. C'est un espace économique centré sur une vitiviniculture séculaire.
Il y a un autre danger qui m'intéresse aussi. Quand on voit ce site, quand on voit ces villages, quand on voit ces merveilleuses maisons, on se dit que le mot à la mode aujourd'hui, la gentrification, l'arrivée d'urbains, de gens qui veulent quitter les villes, qui ont des moyens, qui ont de l'argent, qui ont des exigences aussi dans leur lieu de vie, ils doivent être très nombreux ici. Hein, et c'est un défi aussi de faire cohabiter ces populations-là, ceux qui travaillent la vigne, ceux qui sont là, et puis ceux qui arrivent.
Alors bon, les enjeux de cohabitation entre les personnes qui viennent de zones urbaines et...
ceux-là de la ville, comme on les appelle.
Alors, oui, la cohabitation est un enjeu, mais les personnes qui viennent à l'AVO viennent aussi pour des raisons qui sont nobles, c'est-à-dire se rapprocher de la nature. Ce qui est très important, c'est pour nous de donner cette grille de lecture à toutes ces personnes en leur disant, à l'heure actuelle, le meilleur moyen de garantir la préservation du site, ça reste d'aller voir le vigneron, de lui acheter ses vins, de garantir une dynamisation de cette vitiviniculture séculaire. Et dans ce sens-là, oui, un phénomène de gentrification existe, mais on ne peut pas dire que ces personnes-là viennent avec des mauvaises intentions ou une méconnaissance totale du site.
Ils ne veulent pas tous construire une piscine olympique dans les villages classés, j'imagine, mais plus prosaïquement, sans donner de mauvaises intentions à qui que ce soit, mais les fils et filles de vignerons, ils trouvent à se loger?
Alors, les fils et filles de vignerons, c'est un enjeu, évidemment. Un enjeu, ouais. Déjà, l'enjeu est la reprise des domaines aussi, parce que compte tenu des enjeux que traverse la vitiviniculture à l'heure actuelle, il faut s'assurer que les domaines soient repris. Ça, c'est un premier enjeu. On voit une nouvelle génération extrêmement motivée qui arrive, qui se met en place, qui se mobilise, et c'est extrêmement réjouissant. Mais on voit aussi, certaines fois, des grandes lignées de vignerons ou vigneronnes qui peinent à remettre leur domaine aussi. Ça, c'est un enjeu très important, mais au même titre que ce que je disais avant, qui est assez proche de celui de l'agriculture de manière générale. Maintenant, c'est vrai qu'à l'AVO, quand on a des domaines de 3-4 hectares qui ne retrouvent pas de repreneurs, ça reste très inquiétant, parce que c'est une perte directe de patrimoine, parce que c'est une parcelle qui sera moins travaillée ou temporairement laissée en l'état. Donc on a des inquiétudes de ce côté-là. C'est tout le challenge de travailler dans ce périmètre, c'est que c'est un paysage vivant, et ce vivant apporte énormément de par la mixité des personnes qui travaillent, qui évoluent et qui se déplacent, les attentes aussi, mais ça reste évidemment aussi des contraintes de faire effectivement cohabiter toutes ces populations en bonne intelligence et toujours dans l'intérêt du site et de ses patrimoines.
Bon, vous parlez de tous les aspects hein, de ce site, de cette région. On va peut-être finir par là où on aurait peut-être pu commencer. C'est quoi le job de l'association dans le fond ? Qu'est-ce que vous faites au milieu de toute cette réalité vivante ?
Alors, la première mission de l'association, vu qu'on est une toute petite association, on est 5 personnes, c'est déjà de mettre les bonnes personnes autour de la table pour pouvoir traiter des sujets complexes qui sont liés à l'AVO. Et ces sujets-là, on les sépare en 3 axes. Le premier, c'est la gestion du site qui est liée aux éléments structurants. Donc, on s'attache à faire des réflexions sur comment entretenir le patrimoine physique, les murs, les bâtiments, tout ce qui constitue l'élément structurel du site. La deuxième mission essentielle, c'est ce qu'on appelle la médiation culturelle, c'est-à-dire justement de créer du lien entre les différentes populations qui évoluent dans le site. Et le troisième axe, c'est la valorisation durable, c'est-à-dire de s'assurer que tous ces acteurs-là génèrent des retombées économiques de manière durable dans le site, pour maintenir un tissu local actif et dynamique.
Pour l'UNESCO, on repasse l'examen tous les X temps. Il faut donner des preuves que ça fonctionne toujours.
Oui. Un des éléments de suivi principal de l'UNESCO, c'est les rapports périodiques. Et on a rendu le nôtre en juillet l'année passée. C'est un questionnaire d'une centaine de pages qui est le même pour tous les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial dans le monde. Donc les 1200 sites ont dû faire cet exercice-là. Et de ce côté-là, donc on a fait un gros travail avec communes, cantons, vignerons, tourisme, tous les secteurs concernés pour évaluer les facteurs d'impact que peuvent être effectivement le tourisme, la mobilité, l'environnement, toutes ces grandes thématiques. On doit répondre à l'état de préservation du site et les outils de gestion pour garantir que ce site puisse être préservé sur le long terme.
Bon, bah merci à vous. Non, encore un truc, si on regarde la carte du monde, l'AVO, la région Vevey-Lausanne, c'est une tête d'épingle toute petite. Il y a deux UNESCO dans le coin. Il y a la fête des vignerons, patrimoine immatériel, l'AVO, patrimoine mondial. C'est pas banal ça.
C'est extraordinaire, et en plus je crois qu'on est les seuls à pouvoir bénéficier de cette double reconnaissance. On travaille très bien avec la confrérie des vignerons qui porte justement l'inscription de la fête sur la liste du patrimoine culturel immatériel, et c'est tout à fait extraordinaire parce que ça rajoute encore le côté culturel et vivant, vu que la confrérie valorise le travail des vignerons tâcherons, de l'AVO et du Chablais également, et donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel et dont on est très fier et qu'on doit encore continuer à valoriser et à faire connaître.
Voilà, une cohérence liée, liée au patrimoine. Ouais. Merci à vous, Vincent. Merci beaucoup.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la Minute Hawaïenne, il faut rendre à Girac ce qui est à Girac. Ah, en sérieux. Hier, je suis peut-être allé un petit peu fort. Et en fait, je culpabilise parce que j'ai lu une phrase sur lui de Pierre-Alexandre Vertadier. C'est le producteur de ce concert qui dit « Les artistes qui réussissent sont ceux qui travaillent. » Kenji a en plus une singularité, un talent fou, quelque chose de naturel qui suscite de l'empathie. Il est authentique et les gens le sentent. C'est pour ça qu'il est l'un des plus gros vendeurs de billets, de concerts et d'albums en France. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout faux. Non, mais je tape dessus, mais en fin de compte, le personnage, je l'aime bien. C'est pas Shakira, quand même, tu vois ce que je veux dire. Tu vois qu'il a l'air sympa, le mec. Bon, ben, j'ai gratté un petit peu et j'ai réussi à trouver une chanson de Kenji Girac que j'aime bien. Et là, tu me diras, oh, t'es un salaud, parce que c'est la seule chanson où il chante pas, c'est vrai. C'est un solo de guitare. Mais Amor y Libertad. Amour et liberté. C'est un titre qui touche ma sensibilité de punk révolutionnaire. Donc c'est la chanson qu'on va écouter aujourd'hui. Prenez-la comme un petit moment de détente, comme un voyage dans le sud de l'Espagne, là où l'amour et la liberté sont rois. C'était « Il faut rendre à Girac ce qui est à Girac », c'est vrai, au bout d'un moment tu peux pas...
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, C'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Radio Chablais, programme de nuit.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Le Mont Hélens Center légendaire pour son dynamisme toujours est avec nous. Bonjour Sabine.
Bonjour.
Sabine, avec nous pour parler justement du spectacle de ce samedi. Deux spectacles, 14h30 et 20h. Le spectacle de l'école justement du Mont Hélens Center, Dance for the World. Fais-nous rêver, explique-nous, qu'est-ce qu'on va découvrir?
Ouh là là, alors il y aura beaucoup de chorégraphies. Avec les donc tous les élèves de l'école de danse bien sûr.
Ben ouais.
Et il y aura quelques chorégraphies de la revue de Montreux avec la compagnie MDC pour donner un petit peu de piment également. Et puis quelques guests, ben Cooper et Waldo.
Ah joli. Ouais, la tradition familiale.
Voilà. Ensuite il y aura Faustine Jenny qui est une superbe chanteuse. Et puis, une danseuse de Zurich qui est deux fois championne du monde et six fois vice-championne du monde de showdance qui nous vient pour faire un joli solo. Et voilà.
Ouais, donc toute une ambiance, on rappelle, hein, pour fêter, c'est le spectacle de l'école du Mont Hélens Center, Dance for the World. On imagine aussi que justement cette thématique de danser pour le monde, elle sera présente un petit peu dans les différentes interventions, danser, jouer, chanter.
Oui, il y aura de tout, beaucoup de danse classique, du jazz, du moderne. Du hip-hop, un peu tous les styles, et c'est vrai que de tous les âges aussi, donc c'est chouette, mais c'est pas trop long, ça va bien, parce que des fois les spectacles d'école c'est un peu ennuyant, et là c'est vraiment chouette parce qu'il y a beaucoup de dynamisme justement avec des plus âgés, des plus jeunes, il y a un petit peu de tout.
Un joli rythme pour justement ce spectacle de l'école du Mont Hélens Center Dance for the World. C'est ce samedi au Crocheton à 14h30 et à 20h, on le rappelle. Par contre, c'est bien de réserver avant, non?
Oui, alors à 20h, c'est presque complet. Il reste encore quelques places pour 14h30, par contre. Les billets peuvent se prendre à l'école de danse de 14h30 à 19h, mercredi, jeudi, vendredi. Après, ouais. Ce sera fermé. Et après, ça sera sur place, au Crocheton, à la billetterie, une heure avant le spectacle.
Voilà. On rappelle donc que le spectacle, c'est ce samedi, 14h30 et 20h. 20h, c'est déjà quasiment complet. Il faut se dépêcher de réserver. Merci Sabine, et puis plein succès.
Bah merci beaucoup à toi et puis bonne journée à tout le monde.
À très bientôt, bye bye, ciao.
Merci, au revoir.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Le MAG, c'est ta région, son actualité, mais aussi son histoire du lundi au vendredi, après le journal de 17h. Et on commence aujourd'hui par de l'histoire et de l'actualité en même temps. Puisque l'université de Lausanne va lancer une étude sur la commune de Corbérier cet été, qui concernera un bloc de roche situé au lieu dit du plan Falcon. Un endroit bien connu de la commune, puisqu'en 1584, un éboulement majeur s'y est produit. Éboulement qui avait ôté la vie à une centaine de personnes entre Corbérier et Yvorne. Aujourd'hui, aucun risque similaire, mais simplement une curiosité scientifique qui pousse l'UNIL à se questionner sur la présence et la forme de ce bloc. Pour en apprendre un peu plus, Ludovic Turin est allé questionner le municipal de Corbérier, Christian Roubati, en charge des terrains et des pâturages. Il a commencé par situer le lieu de l'étude qui va bientôt démarrer.
On parle des hauts en dessous de Corbérier, en dessous même du hameau de Luon, plus précisément vers l'alpage de Plofalcon, et on voit vraiment là-bas la paroi rocheuse où il s'était passé autrefois un grave éboulement.
On va y revenir sur ce grave éboulement de 1584 pour être précis, mais peut-être avant ça, nous expliquer comment est venue l'idée de cette étude, Christian Roubati. Vous avez été démarché par l'Université de Lausanne, comment ça s'est passé?
Alors ça s'est passé lors d'une discussion suite à une conférence. L'Université de Lausanne a fait tout un travail sur cet éboulement de l'Ovaille et ils sont venus présenter leur travail à Corbérier en demandant si ça nous intéressait. Il y a eu un très grand intérêt parce que la salle communale était complètement bondée, était pleine. Il y a eu beaucoup de questions et autres. Et à la suite de cette séance, j'ai parlé de certains glissements de terrain que j'ai constatés ces dernières années, mais des glissements très superficiels. Suite à ça, ils se sont dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de poursuivre des études. Finalement, on a étudié que la partie historique, Mais ça serait peut-être intéressant de vérifier d'une manière géologique, sismique, comment évolue cette région.
Alors la partie historique, vous l'avez rapidement mentionné, Christian Roubati, c'est cet éboulement qui est bien connu en tout cas des gens d'ici d'Ivorne, de Corberrier, c'est cet éboulement dit de Lovaille qui s'est produit en 1584, donc un petit peu moins de 500 ans aujourd'hui, qui a eu quand même beaucoup de répercussions, il y a eu des décès, il y a eu beaucoup de casses. Rappelez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 1584.
Alors, en 1584, le 1er mars, par rapport à notre calendrier, ou le 11 mars à l'époque, le calendrier grégorien, il y a eu en fin de matinée un premier tremblement de terre. Après, il y a eu plusieurs répliques, dont une le 4 mars. En plus des tremblements de terre, il y a eu une période de très grosses précipitations. Donc, tout le terrain était gorgé d'eau et il y a eu au moins quatre répliques de tremblements. Et le 4 mars, un grand bout de la paroi de la montagne est parti avec énormément de masses de boue, de terre et de matériaux qui ont enseveli une partie de Corberrier et surtout une grosse partie d'Ivorne.
On peut encore le voir, hein, ce cône de déjection de gravats qui arrive de la montagne et qui est lié directement à cet épisode de 1584. C'est quoi le lien aujourd'hui, Christian Roubati, entre cet épisode et l'étude qui est actuellement mise en place par l'Université de Lausanne ?
Alors le lien, c'est justement d'étudier un peu l'évolution de cette zone qu'on appelle l'Ovaille. Donc Ovaille viendrait, semble-t-il, d'un ancien mot patois, Orvaille, qui signifierait soit catastrophe, soit éboulement. C'est un peu maintenant de suivre quelle est l'évolution d'un terrain qui a connu une catastrophe ancienne, voir comment il réagit aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'UNI qui a décidé d'étudier ce point. Il n'y a pas du tout actuellement de risque et de danger. C'est par curiosité intellectuelle et puis pour mieux connaître l'évolution d'un tel site.
Mais vous le dites, hein, en 1584 déjà il y avait eu une météo capricieuse. Cette année, cet hiver, on a aussi connu un hiver en tout cas avec de fortes précipitations. On a vu beaucoup d'éboulements, on a vu beaucoup d'inondations aussi. Les nappes phréatiques sont remplies. Ça joue aussi avec cet hiver particulier de lancer cette étude?
Non, parce que ça avait été décidé, la séance avait eu lieu avant. Alors, il est bien clair que des hivers difficiles comme cet hiver sont propices à plus d'éboulements et comme ça, mais vraiment l'étude n'est pas liée à un danger, à une crainte. Les habitants de Corberrier et d'Ivorne peuvent dormir tranquillement. C'est vraiment un intérêt scientifique de connaître l'évolution de cette zone.
Et puis, évidemment, vous n'êtes pas dans l'étude scientifique, Christian Roubati, mais en quelques mots, si vous le savez, comment va se dérouler cette étude? C'est quoi les points d'ancrage précis qui vont être étudiés durant cette analyse?
Alors, le premier point qui va être installé cette année, c'est un sismographe qui va être installé sur la zone de Plan-Falcon, l'endroit un peu où s'est déclenché l'éboulement, pour mesurer tous les mouvements de terrain, ces informations que cherche l'Université de Lausanne pour voir comment évolue ce genre de terrain.
On l'a dit, vous êtes municipal ici à Corberrier. Il y a un lien avec l'exécutif communal, Christian Roubati, avec cette étude. Comment vous collaborez avec l'Université de Lausanne? Est-ce qu'il y a déjà une collaboration ou est-ce que l'Université de Lausanne est assez indépendante?
Alors, l'Université de Lausanne est totalement indépendante. C'est uniquement ce contact que nous avons eu lors de cette séance qui intéressait la population. Et suite aux discussions, ils ont décidé de mener cette étude. Nous, on est là que comme facilitateur pour les accès, pour différentes choses, mais on n'est autrement pas directement impliqué dans l'étude.
Et puis, tout dernier mot, Christian Roubati, peut-être un mot sur le temps que ça va prendre, cette étude. Est-ce qu'il y a déjà une prévision ou est-ce que, pour l'instant, pas d'informations à ce sujet?
Alors, pour le moment, je n'ai pas reçu de planning. J'ai reçu uniquement des informations par rapport à des demandes d'accès vers l'Alpage pour aller installer le sismographe. Mais je ne dispose pas plus d'infos, savoir si l'étude va se dérouler sur plusieurs années ou si c'est en termes de mois ou d'années, ça j'ignore.
Mais on se réjouit quand même de voir les résultats. C'est quelque chose qui intéresse les gens, c'est quelque chose qui passionne aussi.
Oui, c'est quelque chose qui ici passionne assez les gens parce que cette grande catastrophe de l'époque, même si c'est très ancien, est restée gravée dans le paysage ici et à quelque part dans l'inconscient collectif. Ça fait partie du territoire, si on veut, et de nos communes.
Et notez que vous pouvez réentendre cet entretien en replay sur notre site internet radiochablais.ch.
Radio Chablais, programme de nuit.
On continue ce mag avec de la verdure et du printemps, puisque cosmologiquement, c'est plus l'hiver, même si la théo essaye de nous faire croire le contraire. Si tu es amoureux ou amoureuse de plantes et de nature, on te donne rendez-vous ce week-end à l'abbaye de Sala à Aulon pour les bucolique. Depuis 2014, le dernier week-end d'avril est en effet synonyme de début de saison des plantes dans les jardins de l'abbaye. Et c'est entre conférences et ateliers que les visiteurs auront de quoi échanger dans un esprit convivial. Voilà, le décor est planté. Jeu de mots. Et pour en avoir le cœur net, Xavier Borgeot est parti ce matin à la rencontre de la fondatrice des bucoliques, Martine Cardozo.
La volonté de départ, c'était d'organiser dans notre région un événement qui rassemble un petit peu plein d'artisans, pépiniéristes, producteurs de plantes qu'on voit pas forcément parce qu'ils sont disséminés dans toute la Suisse romande. Ils ont des petits domaines et puis ils sont pas forcément au bord d'une grande route passante. Et puis, c'est des gens qui sont tous passionnés par leur métier. Ils sont tous spécialisés, chacun dans leur domaine. Et voilà, l'idée, c'était d'amener le public vers ces gens.
Et d'ouvrir le dialogue, bien évidemment, sur le monde des plantes et des jardins. Et ça, c'était, et c'est toujours la volonté de base des bucoliques.
Oui, alors effectivement, c'est un plus. C'est de, par cette manifestation, de pouvoir amener des conférences, des ateliers, amener une sensibilité sur une façon de cultiver son jardin.
Et comme chaque année, il y a un thème. Cette année, c'est l'eau. Ça tombe bien, on en a eu pas mal ces jours. Mais on va pouvoir s'interroger, se questionner sur cette thématique-là.
Oui, exactement, c'est l'eau. Effectivement, j'ai pensé à ça parce qu'on a eu deux années quand même très sèches, chaudes et très sèches en Suisse. Donc je me suis dit, ce serait pas mal de prendre l'eau comme thème. Depuis, il n'arrête pas de pleuvoir. Ça, c'était pas prévu, mais bon, voilà. C'est un petit peu, on voit un peu les déséquilibres auxquels on risque d'être soumis dorénavant. Et puis en plus, l'année dernière, j'ai eu connaissance d'un peuple premier d'Amérique latine, les Kogi, qui viennent de Colombie et qui sont venus en Suisse parce qu'ils avaient le désir de connaître le Rhône. Et puis je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'un peuple qui vienne d'aussi loin ait envie de connaître un fleuve. Enfin, le Rhône, c'est un grand fleuve d'Europe, mais enfin quand même, quoi. Je me suis dit, comment, pourquoi? Et puis on aura la chance d'avoir deux des scientifiques qui ont accompagné cette délégation, qui viendront nous faire un témoignage en images de ce voyage au fil du Rhône avec les Kogi.
Pourquoi c'est important de partager ces philosophies par rapport à, alors, cette thématique de l'eau, mais surtout par rapport au monde végétal?
L'eau et le monde végétal, c'est tellement lié. Enfin, et nous, en Suisse, on est quand même très privilégiés. On a beaucoup d'eau, on a des glaciers, on a des montagnes, on a des fleuves et des rivières. Donc, on a de la végétation facilement. Mais on se rend compte qu'il suffit de quelques mois de sécheresse et tout peut être chamboulé. Donc, c'est vraiment, l'eau, c'est vital, quoi.
Donc il y a aussi une volonté peut-être de sensibilisation du public au travers de ces bucoliques.
Oui, il y a toujours une volonté de sensibilisation. Chaque année, il y a un thème différent. Donc cette année, c'est celui-là. Et puis pour revenir aux Kogi, donc à ce peuple premier, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un regard tout à fait différent du nôtre sur les éléments de la nature. Et je trouve que